Alors voilà pour le baptême, donc c'est le chapitre 7. Pour ce qui est du baptême, donnez-le de la façon suivante. Après avoir enseigné tout ce qui précède, donc toute la morale, les 6 premiers chapitres, baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, citation de saint Matthieu, dans de l'eau vive. S'il n'y a pas d'eau vive, qu'on baptise dans une autre eau, et à défaut d'eau froide, dans de l'eau chaude. Voilà. Et si tu n'as ni de l'une ni de l'autre, verse de l'eau sur la tête 3 fois, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on a déjà versé 3 fois de l'eau au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est exactement le rite qu'on a actuellement, hein, le rite par effusion, comme on dit. Alors qu'avant le baptême, jeûne le baptisant, le baptisé et d'autres personnes qui le pourraient, du moins ordonne au baptisé de jeûner un jour ou deux auparavant. Donc autrement dit, c'est la préparation pénitentielle, ce qui fait que justement le baptême est aussi célébré, c'est le signe qu'il est célébré dans le triduum en fait. Hein.
Ça, vous ne l'avez pas prescrit ça?
Non, mais
tout de suite. Mais en fait, comme samedi saint,
c'était vendredi saint et samedi saint. T'as pas dû manger beaucoup quand même.
Oui, vendredi
saint. Ah, tu te souviens plus.
Peut-être le dernier vendredi où je peux vraiment manger tout ce que je veux.
Non, en fait, il n'a pas dû, je pense. En fait, il a dû correspondre à ce que dit la Didaké par émotion. Alors ensuite, le chapitre 8, sur le jeûne, justement. Que vos jeûnes n'aient pas lieu en même temps que ceux des hypocrites. Ils jeûnent en effet le lundi et le jeudi. Pour vous, jeûnez le mercredi et le vendredi. Vous voyez, l'origine de notre jeûne du mercredi et du vendredi, il est dans la Didaké. Alors la Didaké qui ne fait que refléter une pratique déjà existante, probablement vieille de quoi, même pas un siècle, un demi-siècle. Alors qui sont les hypocrites? Alors, ne priez pas non plus comme les hypocrites, mais comme le Seigneur l'a ordonné dans son évangile, priez ainsi. Oui, voilà, c'est ça, ceux qui sont sur les places. Voilà, vous avez le passage de saint Matthieu, justement, qui parle de ces hypocrites. Et on a précisément la prière que Jésus enseigne, notre Père qui est dans le ciel. Que ton nom soit sanctifié, que ton royaume arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous notre dette, comme nous-mêmes nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Dans la traduction de la Pléiade, j'ai un autre chose. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et remets-nous notre dette, comme nous remettons aussi à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Vous voyez, la traduction est un peu différente. En fait, le problème du Notre Père, c'est qu'il faut vraiment l'avoir dans la langue originale, parce que c'est... Bon, les dettes, c'est évident. Maintenant, vous voyez, la tentation, l'épreuve, le mal ou le malin, etc.
Dette, c'est quoi, vous dites ?
Dette, oui.
C'est la traduction du latin.
C'est, oui, la traduction du latin, mais la traduction du grec aussi. Hein.
C'est du grec, là. C'est...
Oui, oui.
Oui, mais la traduction du latin, ça vient du grec.
Ah, oui, oui, le latin est beaucoup plus proche du grec, oui.
Autrement dit, c'est bien la notion
C'est ça. C'est la notion de dette. Nous sommes débiteurs et puis remets-nous notre dette comme nous-mêmes nous remettons à nos débiteurs. Voilà. Et alors il y a la question, le pain quotidien dans l'ancien cas, le pain de ce jour. En grec on a épiousion, hein, ce qui veut dire sur essentiel ou sur substantiel. donc qui est évidemment difficile à traduire, mais je crois que c'est comme ça que Jérôme l'avait traduit dans la Vulgate. Mais dans notre liturgie, qui est plus ancienne que la Vulgate, on a certainement la Vetus Latina, enfin une des traductions latines antérieures, qui dit comment on dit dans le pater déjà, je le dis tous les jours, mais quotidianum, hein, de chaque jour, donc. Alors que Jérôme, pour être plus fidèle au grec, avait pris super substantialem, vous voyez, donc épiousion.
Et pour la ligne suivante,
ouais. C'est quoi, hein?
Alors succomber, alors là, justement, le pain super substantiel, c'est une nourriture qui est. Parce que dans la tradition juive, dont Jésus est quand même aussi un des représentants, le pain de Dieu, c'est la parole, c'est le verbe. Hein. Donc le verbe supersubstantiel, c'est le verbe en deçà même de sa matérialité dans l'Eucharistie. Vous voyez, c'est plus que... Enfin, c'est pas plus, mais c'est la racine même de l'Eucharistie. C'est le Christ lui-même, c'est le verbe. La parole qui est le pain que Dieu donne à son peuple. Parce que dans l'Ancien Testament, le pain, c'est vraiment la parole. Hein.
Même en français, enfin, je veux dire français, latin, grec, c'est bien, c'est pas le...
Le quoi ?
Le rituel.
Le ?
C'est ce rituel.
Oui. Voilà. Alors, donc voilà. Et prier trois fois par jour, donc trois fois, on doit dire le Notre Père. Enfin, du moins, la didéque se fait le témoin de cette... donc, matin, midi et soir. Probablement, c'est lié aux trois prières du temple. Hein, ou... Et après, on a l'Eucharistie, vous voyez. Pour ce qui est de l'Eucharistie, rendez grâce ainsi. Et là, on a un pléonasme, hein, puisque Eucharistie, ça veut dire rendre grâce. Hein. Donc, pour l'action de grâce, rendez grâce ainsi. D'abord, sur le calice, nous te rendons grâce, notre Père, pour la sainte vigne de David, ton serviteur, que tu nous as fait connaître par Jésus, ton serviteur, à toi la gloire pour les siècles. Alors, serviteur, hein, ici, c'est païs en grec. Hein, c'est le petit serviteur, c'est le petit enfant serviteur, en fait. Donc, c'est aussi l'enfant. Alors, parfois, on a des traductions qui disent « par ton enfant ». Là, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il met ?«
Jésus, ton enfant ».
Oui, là, il met « Jésus, ton serviteur », oui.
C'est comme l'histoire du centurion.
Oui, c'est ça. C'est païs aussi. Hein. Puis, sur le pain rompu, nous te rendons grâce... Alors, vous voyez, c'est inversé, là. Hein. Puis, sur le pain rompu, nous te rendons grâce, notre Père... pour la vie et la connaissance que tu nous as fait connaître par Jésus, ton serviteur, à toi la gloire pour les siècles. Comme ce pain rompu, d'abord dispersé sur les montagnes, a été recueilli pour devenir un, qu'ainsi ton Église soit rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume, car à toi appartiennent la gloire et la puissance par Jésus-Christ pour les siècles. Alors, vous voyez, l'idée, hein, c'est que il y a la multitude des grains qui va se fondre en une seule farine, si l'on veut, et qui est l'image de la multitude des champs, des lieux, et donc de la multitude des églises, qui ne font plus qu'une dans la grande église. Et après, que personne ne mange ni ne boive de votre Eucharistie, si ce n'est les baptisés au nom du Seigneur, car c'est à ce sujet que le Seigneur a dit « Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens ». Donc, là, on voit bien que la communion nécessite le baptême. Après vous être rassasiés, rendez grâce ainsi. Nous te rendons grâce, Père Saint, pour ton saint nom que tu as fait habiter dans nos cœurs et pour la connaissance, la foi et l'immortalité que tu nous as fait connaître par Jésus ton serviteur, à toi la gloire pour les siècles. C'est toi, Maître Tout-Puissant, qui as créé l'univers pour la gloire de ton nom et qui as donné aux hommes la nourriture et le breuvage en jouissance pour qu'ils te rendent grâce. Mais nous, tu nous as gratifiés d'une nourriture et d'un breuvage spirituel et de la vie éternelle par Jésus ton serviteur. » Donc il distingue bien entre la nourriture qu'on reçoit de Dieu comme opifex, hein, celui qui est généreux, voilà, et créateur, et la nourriture que nous recevons à travers la passion et donc l'institution de l'Eucharistie. Voilà. Par-dessus tout, nous te rendons grâce car tu es puissant, à toi la gloire pour les siècles. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église pour la préserver de tout mal et la rendre parfaite dans ton amour. Et rassemble-la des quatre vents, cette Église que tu as sanctifiée, dans ton royaume que tu lui as préparé, car à toi appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles. Vienne la grâce et que passe ce monde. Hosanna au Dieu de David. Si quelqu'un est saint, qu'il vienne. Si quelqu'un ne l'est pas, qu'il fasse pénitence. Maranatha, amen. Maranatha, c'est viens Seigneur. Voilà. Et donc c'est le dernier mot de l'Apocalypse. Et donc, vous avez là, dans ce paragraphe 10, en somme, le canevas du canon, le canevas d'une prière eucharistique. Alors nous, on n'en a qu'un de canon, enfin, nous jusqu'en 69, on n'avait qu'un seul canon, maintenant, on a quand même un peu plus, etc. Bon, l'Orient, on a des tonnes, enfin, pas mal, mais vous voyez que à cette époque, on est dans la phase de production, en somme, du rite, et il va y avoir un moment où eh bien, ça va être normé, en quelque sorte. Hein. Il va y avoir une forme normative pour prier. Et vous voyez la suite, d'ailleurs, c'est « laisser les prophètes rendre grâce autant qu'ils le veulent ». Un peu charismatique, hein. Mais ça veut dire en gros que celui qui présidait, en fait, il parlait autant qu'il pouvait. D'ailleurs, il y a un autre passage, je crois que c'est pas dans la Didache, c'est, je me demande si c'est pas dans la première apologie de Justin, où il dit qu'il parle autant qu'il peut. Alors ça pouvait durer la nuit. Hein. Vous souvenez que Saint Paul, quand il... Oui, voilà, il y en a un qui s'est endormi, qui est tombé de la fenêtre et qu'il a dû le ressusciter. Voilà. Et après, alors voilà, vous avez une page, ça fait juste une page, où vous avez ainsi des renseignements, enfin très précieux quand même, sur le baptême, avec déjà l'idée de baptême par effusion. Avec trois fois l'invocation de la Trinité, qui est exactement la forme canonique actuelle, hein. Sur le jeûne du mercredi et du vendredi, donc qui sont les deux jours de jeûne de pénitence de l'Église. Le mercredi est un petit peu affadi aujourd'hui, mais oui, avant, après il y a eu le samedi, mais je crois que c'est Saint Jérôme qui a dit que qu'il fallait pas. Une histoire entre Saint Jérôme et le pape de l'époque. Je crois que c'est le pape qui a été plus miséricordieux que Saint Jérôme, je crois. Et puis, ou le contraire, enfin, je ne sais plus. Disons, l'Eucharistie. Et après, vous avez à nouveau des prescriptions. Alors, par exemple, sur l'accueil des prophètes itinérants. Or, à l'époque... Ben en fait, c'était les évangélisateurs, hein, ces prophètes itinérants. Par exemple, au numéro 11, il dit « Si quelqu'un vient pour vous enseigner tout ce qui vient d'être dit, accueillez-le. Mais si l'enseignant lui-même, par revirement, enseigne une autre doctrine en vue de détruire, ne l'écoutez pas. Si au contraire, c'est en vue d'accroître la justice et la connaissance du Seigneur, accueillez-le comme le Seigneur. » Voilà. Ou alors, des choses qui sont étonnantes. Pour les apôtres et les prophètes, donc les apôtres, donc ce sont les apôtres, mais vous savez, Saint Paul parle déjà, il y a différents ministères, les apôtres, les docteurs, les prophètes, etc. etc. Donc on voit que dès l'époque apostolique, il y a une diversité de ministères, même si la hiérarchie n'en retiendra que trois sacramentellement, mais il y avait d'autres ministères, on pourrait dire, laïcs. D'ailleurs, c'est ce qu'on a, on en a la trace à travers les ordres mineurs dans l'Église. Oui. Alors, il dit, pour les apôtres et les prophètes, donc pas nécessairement les apôtres, les douze, hein, et les prophètes, selon la doctrine de l'Évangile, agissaient de la manière suivante. Que tout apôtre qui vient chez vous soit accueilli comme le Seigneur. Pas mal. Mais il ne restera qu'un seul jour, et si besoin est, le jour suivant. S'il reste trois jours, c'est un faux prophète. Ça veut dire qu'il profite de la communauté. À son départ, que l'apôtre ne reçoive rien hormis le pain jusqu'à l'étape où il fera halte. S'il demande de l'argent, c'est un faux prophète.
Ça en fait beaucoup.
Oui. Voilà. Alors voilà. Aussi, tout homme qui parle sous l'inspiration de l'Esprit n'est prophète que s'il a les comportements du Seigneur. C'est donc à leur comportement qu'on reconnaîtra le faux prophète et le prophète. Tout prophète qui ordonne un repas sous l'autorité de l'Esprit n'y prendra pas part, sinon c'est un faux prophète. Oui, en fait, finalement, il fait payer, il se fait nourrir par les autres. Un peu comme moi pour le 9 novembre, vous voyez.
Voilà. C'est bien noté, vous ne mangerez pas.
Voilà. Je croiserai les bras. Mais je serai comme un hypocrite, hein, parce que c'est le lundi et le jeudi que les jeunes. Voilà. Voilà. Il y a aussi une idée paulinienne qu'on retrouve. S'il veut s'installer chez vous et qu'il ait un métier, qu'il travaille pour manger. Mais s'il n'a pas de métier, usez de votre intelligence pour prévoir les moyens d'éviter qu'un chrétien ne vive avec vous tout en étant oisif. S'il ne veut pas agir ainsi, c'est un trafiquant du Christ. Attention aux individus de cette espèce.
Donc, chrétien au RSA.
Oui, oui. Donc, vous voyez, ça pourrait très bien être... les prêtres ouvriers, ils s'y retrouvent là-dedans. Hein. Donc, vous souvenez que saint Paul dit, j'étais à charge de personne, j'ai pas profité de vous, mais les mains que voici ont travaillé, ont fabriqué des cordes et des tentes. Et puis, viennent ensuite des directives sur l'assemblée dominicale et l'institution des hiérarchies locales. Alors ça, je vais vous le dire aussi parce que c'est court. En fait, c'est très connu même. J'aurais dû vous le donner en... Voilà. Le jour du Seigneur, rassemblez-vous pour rompre le pain et rendre grâce, après avoir en outre confessé vos écarts de conduite, pour que votre sacrifice soit pur. Alors, le jour du Seigneur, ça veut dire du samedi soir jusqu'au dimanche, sachant qu'à l'origine... il y avait le repas du samedi soir qui était le repas du sabbat, de la fin du sabbat que les chrétiens récupèrent des juifs pour ensuite célébrer l'Eucharistie après les agapes. Et comme très rapidement on s'aperçoit que c'est un repas festif qu'on a un peu tendance à boire ou à s'empiffrer, saint Paul déjà fait remarquer que c'est pas très convenable de prendre la nourriture spirituelle alors qu'on est gavé de nourriture terrestre, qu'en plus on ne partage pas, hein, puisqu'il dit ça aussi, il y en a qui s'empiffrent et d'autres qui ont faim. Et alors donc, progressivement, comme en plus l'Eucharistie est précédée par la lecture des prophètes et des écrits des prophètes et des apôtres, comme dit je crois, saint Justin, eh bien, ça se prolonge. Et on a eu tendance à passer la nuit finalement dans la vigile, en somme dans l'écoute des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament et dans le commentaire de ces textes par les prêtres, en somme. Et c'était au lever du soleil que on célébrait l'Eucharistie, donc on mettait de la distance entre le dîner et puis l'Eucharistie. Donc ça veut dire que les gens qui ont tendance à dire que l'Eucharistie c'est un repas, voyez, dès la fin du 1er siècle, on se dit faut mettre de la distance entre précisément le repas et le sacrifice. Et le repas sacrificiel, si vous voulez, le fait de participer à ce qui a été offert en sacrifice. Alors là, dans ce texte, Pardon ?
Les lectures devaient vraiment toute la nuit ou il dormait
quand Non, même je pense quand même qu'ils devaient dormir un peu. Ou alors ils devaient commencer tard leur dîner. En tout cas, ce qui s'est fait, c'est qu'après, très vite, la vigile allait tomber. Il y avait les vêtres, donc ce qui était la marque qu'on commençait à célébrer le jour du Seigneur, c'était l'office de vêpres. Puis après, oui, les vigiles et matines qui vont avec. Voilà. Après, les gens rentraient chez eux et revenaient au lever du soleil pour. Mais au lever du soleil, mais pas tellement après, hein, parce que n'oublions pas qu'il faudra attendre Constantin pour que le jour du Seigneur soit fêté, soit chômé. Donc globalement, les gens allaient à la messe avant de prendre leur travail. Et le travail commençait à lever du soleil. Donc ce qui explique quand même que l'Eucharistie était vraiment célébrée à l'aurore. Elle ne pouvait pas l'être ou dans la nuit, parce que à cause justement du travail. Parce que ceux qui étaient à leur compte faisaient ce qu'ils voulaient, mais ceux qui étaient serviteurs, qui avaient un maître, étaient bien obligés de faire avec.